Bonsoir à tous, bienvenue au Libre Journal des Artisans. Je suis Benoît Aguelon et je ne suis pas assisté aujourd'hui de Benoît Duchâtelet qui est en vacances et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Julien Scavini, tailleur, dandy et surtout expert en élégance masculine. Donc nous, dans la suite de notre précédente émission avec le bottier Long Liu, nous allons nous entretenir dans d'élégance masculine. Donc Julien, nous avons un passé en commun. Ce qu'on peut évoquer les circonstances qui nous sont similaires de notre parcours de vie, de notre rencontre.
Oui, nous nous sommes rencontrés il y a on ne compte plus les années maintenant.
Oui, un peu plus de 10 ans.
Voilà, probablement, dans une école de tailleurs qui était située d'abord dans le 16e arrondissement, puis ensuite à Suresnes. École de tailleurs qui avait été fondée par maître André Gilson.
Tout à fait.
Il y avait une boutique à Miroménil et qui était tailleur de métier, tailleur qui faisait de la grande mesure, donc du tout fait main. Et il avait fondé, alors il avait un certain âge déjà quand il était...
Oui, il avait passé âge officiel de la retraite, je crois, comme tous les tailleurs de notre époque. Mais oui, il avait une 60aine d'années, bien sonné déjà.
Ah, bien sonné, exactement. Et il avait créé, dans les années 2000, un institut de formation tailleur, sous une forme d'association, pour suppléer le manque de l'éducation nationale qui ne formait plus au métier d'appiesseur, c'est-à-dire l'appiesseur, c'est celui qui fabrique la veste, avec ses petites mains, donc c'est différent du coupeur. Et donc, il avait créé cette école de tailleur ou d'appiesseur, puis culottier. Et nous nous sommes rencontrés. Alors, moi, je l'ai fait en 2009, cette école.
Oui.
J'ai ensuite eu mon CAP de tailleur.
Voilà.
Et ensuite, je me suis installé à mon compte. Puis, j'ai été professeur.
Voilà, et tout à fait. Et c'est là qu'on s'est rencontrés.
Exactement.
Donc, en fait, on a une évolution. On a une évolution qu'on partage et qu'on a pu voir à travers la documentation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fédération de tailleurs. Il y a une véritable évolution du maître tailleur qui est l'exemple même d'un maître d'art qui a aujourd'hui totalement disparu du fait de la mécanisation. Du fait de la mécanisation et aussi de la course à l'échalote, à la modernité de l'éducation nationale.
Oui, et puis du changement vestimentaire global.
Oui.
Voilà, dans les années 70, il y avait un peu plus de 100 000 tailleurs en France, hein, il me semble.
Oui.
Confondu des retoucheurs, parce que là, il y a une zone grise aux retoucheurs-tailleurs. Et puis, je pense que de nos jours, si on compte les tailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont capables de faire une veste, c'est-à-dire une pièce à manche de A à Z à la main, si on les compte en France, ils sont peut-être une vingtaine,
oui,
en incluant quelques tailleurs militaires qui restent encore, même si l'armée a dégradé aussi, enfin, ça n'existe plus. Hein,
ça n'existe plus.
Tailleur militaire n'existe plus. Donc c'est un métier qui date de la nuit des temps, hein,
oui.
Tailler un vêtement pour quelqu'un, à l'unité,
oui.
Un métier qui a connu son apogée, son âge d'or durant la révolution industrielle. Mais du coup, d'une certaine manière, il y avait déjà une mécanisation, une standardisation de la laine.
Oui.
Donc on a fabriqué du tissu en grande quantité. C'est ce qui a permis d'habiller du monde, y compris les classes populaires.
Tout à fait.
Parce que pendant des millénaires, le vêtement, évidemment, c'était le vêtement des riches. Donc le vêtement de la haute aristocratie,
oui.
De quelques bourgeois des villes.
Oui.
Et au 19e siècle, on a commencé à produire du drap en quantité,
oui.
Lainage, coton.
Qui a fallu écouler,
voilà.
Transformer.
Voilà.
Et donc, 1870, les premières machines s'ingèrent.
Oui, oui.
1911, mécanisation avec, comment ça s'appelle, la baie parisienne, je crois.
Oh, la belle jardinière,
les
grands magasins qui fournissaient de la confection.
Voilà, qui fournissaient de la confection sur mesure.
Oui, oui.
C'est à partir de là que les tailleurs se sont élevés sur le terme sur mesure, qu'il y a eu une confrontation avec la fédération du prêt-à-porter, avec la fédération des tailleurs, et différentes fédérations des tailleurs. des discussions dont on trouvait trace d'un décret de 52 réglementant la confection sur mesure, grande mesure et prêt-à-porter, et des discussions qui ont commencé en 1937. Et lorsque j'ai regardé les archives, le 12 février 43, eh bien, la Fédération des tailleurs a, entre guillemets, baissé pavillon en disant qu'ils acceptaient que tout le monde connaissait l'appellation tailleur, et donc le fait qu'on dise sur mesure, eh bien, ça n'affectait pas la qualité, ou tout au moins la connaissance auprès du public de la qualité du vêtement et du mode de fabrication. Et donc, ils ont laissé tomber l'application sur mesure, sur laquelle, en fait, l'industrie s'est emparée. Mmh. Et donc, à partir de ça, aujourd'hui, on confond bien souvent tailleur et sur mesure.
Et puis tailleur et retoucheur, et je vais même plus loin parce que le lexique se perd en plus.
Oui.
Demi-mesure pour du prêt-à-porter retouché, donc plus personne ne sait, plus personne où il est, ne sait où il est actuellement. Le tailleur, normalement, au sens strict, au beau sens du terme, c'est quelqu'un qui va faire un vêtement à la main de A à Z,
oui,
dans la place.
Mmh.
Évidemment, la modernité fait que on ne trouve plus forcément d'ouvriers dans la place. Parce qu'on ne forme plus. Et puis parce qu'aussi démographiquement, on est en décroissance démographique. Donc,
oui,
et puis nos enfants ne sont pas tailleurs. Personne n'a envie que ses enfants soient coupeurs, appiesseurs.
Et puis personne dans l'éducation nationale n'a, n'a créé de formation tailleur.
Il en reste un tout petit peu.
Il y a des cours de couture au secondaire.
Ici, c'est pas le sens de la modernité.
En France, bah, justement, c'est la mécanisation. On a passé tous les deux CAP tailleur, en apprenant un petit peu à l'arrache les gammes de montage, qui sont des applications industrielles de vêtements qui sont du prêt-à-porter, en fait.
Et encore que, de toute façon, même on sait ça, même en France, cette industrialisation, cette volonté de faire à la chaîne, elle n'existe plus non plus. De toute façon, nous n'avons plus non plus d'usine
de couture. De toute façon, ce qui fait la différence entre un savoir-faire chinois et un savoir-faire français, c'est pas la couleur de peau, c'est charge sociale.
Oui, puisque le nombre de personnes étant capables de faire cette tâche. Hein. Je sais que j'ai un fabricant de chemises dans les Deux-Sèvres. Ils ont eu un pic de départ en retraite, puisque démographiquement, de toute façon, c'était prévisible. Et ils ont pris beaucoup de jeunes filles, parce que c'est principalement des filles, mais pas que, pour apprendre à coudre en interne, parce qu'en effet, il y a une certaine carence d'éducation, donc apprendre à coudre en interne à l'usine. Et il y a eu un départ massif de ces personnes nouvelles au bout de 2 ou 3 ans, parce qu'en fait, pour le même SMIC, il est quand même beaucoup plus facile de travailler derrière une caisse de supermarché que derrière une machine à coudre, parce qu'une usine, c'est bruyant, c'est fatigant, il y a un contremaître, il y a des délais à respecter, des temps de production à respecter. Donc, la disparition de la production comme ça textile, qu'elle soit de grande mesure, c'est-à-dire de belles factures tailleurs, ou même plus industrialisée, elle se perd parce qu'il faut tout simplement des gens et des mains pour mettre derrière. Et que nos enfants, on préfère qu'ils soient ingénieurs, on préfère qu'ils soient docteurs, on préfère qu'ils soient consultants, en ressources humaines.
Vous connaissez la différence entre un gynécologue et un tailleur? Une génération.
Absolument. Alors, non, mais c'est très vrai. Nikos Aliagas, qui est très connu pour être animateur sur TF1.
Tout à fait.
Voilà, son père était tailleur grec.
Oui.
Et il n'a pas voulu que son fils fasse tailleur. Daniel Bilalian, avec qui j'étais, avec qui j'étais proche, son père était tailleur arménien, arrivé en France également. Mais ils se sont élevés dans la société. Les tailleurs ont réussi d'une certaine manière. Ils ont réussi leur coup. Pas en vêtements, mais en enfant.
En enfant, c'est ça, oui. C'est ça. Et puis, il y a le côté où, contrairement aux agriculteurs malthusiens qui vont transmettre, qui ont transmis, parce qu'aujourd'hui c'est différent, leur exploitation à leurs enfants, il y a eu une période où il n'y a pas eu de transmission. Et si on reprend l'histoire, le décret de 52 pose les bases, Et ce qu'on voit notamment dans la revue Adam,
excellente revue,
qui est une vieille revue qui est parue de 32 à 76, je crois, qui était une revue masculine avec des vrais textes de Jean-Marie Rouard et tout ça. Enfin,
de la chronique mondaine.
De la chronique mondaine, oui.
Visite
c'est ça.
Des chasses en Sologne.
Des chasses en Sologne avec le patron de la Fédération des Gantiers qui gagne le prix du tir à la perdrix.
Le plus beau tableau à la sortie d'une chasse.
Tableau, ouais. Voilà,
C'était une sorte de Jour de France très matiné d'artailleurs.
Il y avait voilà. ça, il y avait ouais. ça, et en fait, on a vu, entre 58 et 62, il y a eu une évolution où c'était les maîtres tailleurs vous présentent les tissus de la saison, et après, vers 62, c'est une période de 4 ans, en fait, où les tailleurs s'effacent et où on a, des marques de prêt-à-porter. Qui deviennent prescriptrices. Et ces marques de prêt-à-porter, en fait, qui sont les premiers, les pionniers de l'industrie du luxe.
Oui, exactement. Oui, tout à fait. Qui va transformer fondamentalement notre univers vestimentaire dans les années 2000 après.
Hein, oui, tout à fait.
Le luxe tel qu'on connaît aujourd'hui. Oui, les tailleurs ont cédé le pas parce que c'était une profession vieillissante.
Oui.
C'est une profession qui s'est peu renouvelée.
Oui.
Et puis, il y avait en effet la confection à côté. Les gens voulaient que ça aille plus vite.
Oui.
Moins cher aussi, parce que le fait main
c'est
cher. Alors qu'une confection de série pouvait coûter moins cher. Donc, c'est une conjonction de beaucoup de choses. Les Français, par ailleurs, mais ça ne touche pas que les Français, parce que le même phénomène s'est passé en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, dans tous les pays du monde.
Oui.
Une course à la modernité. Alors, les Anglais ont gardé...
Les Anglais, les Italiens, les Suédois aussi. Mais parce qu'il y a des législations qui sont, qui sont passées de AEO à CHAPTA de 1790, donc des législations qui sont corporatistes.
Crois-tu que c'est que la législation ? Moi, je pense que les Français sont obnubilés de modernité.
Oui.
Faut que ça soit moderne, ici.
Oui, et si c'est moderne, ça doit être inscrit dans la loi.
Ah, bah peut-être, mais oui. Alors qu'en Angleterre, certes, il y a du très moderne,
oui.
Mais y compris dans les vieilles familles, y compris dans certains cercles, on sait ce que c'est que la tradition. Et donc, les tailleurs sont très... Enfin, le terreau tailleur à Londres... est encore très vivace.
Le terreau tailleur est très vivace et mais ils se sont adaptés quand même avec une certaine mécanisation.
Ah bah oui, tout à fait. Bah, pour aller un peu plus vite.
Pour aller un peu plus vite. Oui, tout à fait. Oui.
Mais un costume londonien qui est fait main n'est pas la même recherche, c'est pas le même but qu'un costume parisien qui est fait main.
Oui.
À Paris, ça va être un art absolu de la couture, c'est de la haute couture en
oui,
fait.
Oui, c'est ça.
Ici. Alors que les londoniens, un tailleur du Row, comme on dit, ça va être un objet de travail, ce costume. Pour
tout
un
fait.
Homme, c'est un habit, en fait. Donc il y a une certaine efficacité, une certaine efficience dans la fabrication d'un costume anglais, une certaine rapidité auprès du client, puis une certaine rapidité en production. Et donc c'est pas tout à fait le même état d'esprit que quand on vient à Paris. J'ai tendance à penser.
Oui.
Et puis l'Italie, c'est un mélange des deux.
Oui. C'est une certaine légèreté, c'est... En fait, en Angleterre, les points sont réguliers parce qu'ils sont faits à la machine. En Italie, les points sont irréguliers parce qu'ils sont faits soit à la main, soit, on va pas se mentir, sont faits aussi à la machine, mais de façon irrégulière. Mais en France, on s'est quand même embêté à vouloir faire des points réguliers à la main.
Mais qui ? Mais en France, le sujet, en Italie et en Angleterre, tu l'as dit, le terreau est vivace. On peut trouver des tailleurs en Italie et en Angleterre relativement facilement. Des tailleurs manuels en France, on peut les citer. Je pense que les doigts d'une main peuvent suffire. Camps de Lucas, la plaie de l'église Saint-Roch, Chiffonelli, rue Marbeuf.
Oui.
L'Anvin masculin a disparu.
L'Anvin masculin a disparu.
Smalto. Je savais fait faillite l'année dernière, ça a peut-être été relancé, mais je ne suis pas sûr pour la grande mesure.
Oui.
Et puis, on a fait le tour. Hein. Ouais, et Arnis Berluti.
Berluti, oui.
Berluti
oui,
avec deux ateliers, rive gauche, rive droite.
Tout à fait.
Dont le plus important est rive gauche, qui est en fait l'ancien atelier d'Arnis.
Oui.
Voilà, puis ensuite on doit trouver...
Et puis après on a un tailleur chez Hermès.
Ok, oui. Et puis celui devant le Sénat, qui a un nom italien, qui est une rue dans la rue qui monte au Sénat. Son père était tailleur au même endroit et lui-même est toujours
Oui.
tailleur, mais il n'est pas de la prime jeunesse. Il est
Non.
très aimable ce tailleur d'ailleurs, j'aime beaucoup. Son nom me reviendra quand j'y penserai plus. Mais
Oui,
voilà, on a fait le tour hein, à peu près. Hein, donc...
bah, c'est-à-dire, enfin, quand on parle de tailleurs, ça va être des tailleurs qui emploient des équipes à temps plein.
Oui, et qui font un travail à la main.
Et qui font le travail à
À la
la
main.
main.
Ce qui est différent, parce que maintenant, depuis 20 ans, on peut dire que l'acception logique, et c'est ce que je fais moi tous les jours, d'un tailleur, c'est on fabrique un vêtement artisanalement et à l'unité,
Oui.
mais pas sur place. On passe
Oui.
par un atelier industriel ou semi-industriel en Italie, au Portugal, en Roumanie, à l'île
Oui.
Maurice, en Chine, des ateliers à distance en fait.
C'est ça.
On envoie des barèmes de mesure, on
Oui.
envoie des choix stylistiques du client
Oui.
et le vêtement arrive entre 3 semaines et 3 mois, ça dépend de la
Oui.
qualité, hein, voilà. Les Italiens, un peu plus de 3 mois
Oui.
et d'autres 3 semaines. Et le vêtement, à ce moment-là, on le termine avec plus ou moins de qualité, plus ou moins d'envie, plus ou moins d'attention aux détails.
Oui, c'est ça, ouais. Tu peux éventuellement demander un costume fini en deuxième essayage.
On peut exactement. Et puis on peut démonter une manche en disant on peut faire mieux
Oui.
sur cette manche gauche parce que la manche droite est bien, etc. Mais comme la main n'existe plus pour le faire ici,
Oui.
elle est déplacée dans un atelier semi-industriel ou industriel, donc avec un gain de temps et un gain de coût. Parce
Oui.
que ce qu'on est en train de parler, c'est la différence entre une grande mesure parisienne, donc Schifonelli ou Camps, est entre 7 et 9 000 euros le costume.
Oui, oui, oui.
Et un costume en mesure
En grand,
industrielle
oui.
qui tourne entre 500 pour les moins chers et les moins beaux, à 3 000 peut-être.
C'est
C'est
ça, oui.
à peu près
Oui.
l'ordre de grandeur.
Bah, les tailleurs de province qui tendent à disparaître sont à peu près autour de 4 000.
Ah ben,
Donc,
ce qui est un...
ce qui est un mi-temps, mais parce que justement, il y a des coûts fixes qui sont bas. Et puis surtout aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une situation où ce sont les ouvriers qui déterminent le marché, parce qu'en fait, ce sont les ouvriers qui sont en principale ressource.
Bah, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Et on n'a pas beaucoup. Et il n'y a plus de formation.
Moi-même qui cherche de temps en temps oui, quelqu'un pour soit faire des boutonnières à la main,
Oui, bah, c'est ça.
soit bien retoucher une manche, hein, rien que savoir monter une manche,
Tout à fait.
eh bien ça, en effet, ça ne se trouve pas du tout sous le pied d'un cheval. Hein.
Tout à fait. Et ils sont parfois très capricieux.
Ah bah en plus, bah, comme ils
Ah,
sont
et
peu.
en plus, ils sont...
Je connais un vieux tailleur qui travaille un petit peu pour moi, qui travaille à la main, qui a 93 ans.
Ah oui.
Et de temps en temps, quand on me demande un travail entièrement en main, je fais appel à ses services. Il habite à Montrouge, donc c'est assez à côté, hein, pour venir. Il s'occupe de tout, des essayages, de la coupe, et il fait le montage lui-même, puisqu'il n'a pas d'ouvrier, hein,
Oui.
sauf pour le pantalon. Il a un ouvrier qui est à Nanterre,
Ah, qui a 90 ans, je
qui a
connais.
aussi 90 ans, voilà.
Voilà, je connais.
Mais alors, par contre, il est en Grèce, alors on ne peut pas lui amener tel mois le pantalon, il faut attendre un tel moment. Donc,
Oui,
c'est ce
tout à
dont
fait,
on
oui.
parle. Hein.
Oui, non, mais c'est un petit réseau où on se refile ou pas les numéros.
Oui,
Et
exactement.
effectivement, on voit parfaitement la chose. Bon, une fois qu'on a planté le programme, voilà. Pour finir, il y a eu une évolution en termes d'image des tailleurs. Et c'est vrai que on peut expliquer démographiquement la fin des tailleurs qu'on estime. Moi, que j'estime particulièrement vers 2020, sur 2020-2025, où effectivement nos maîtres tailleurs ont été formés au CAP tailleur, à devenir tailleur en grande mesure, avant 1970, parce qu'ils étaient ça, ils sont nés dans les années 50, ils ont l'âge de nos parents. Et effectivement, la réforme du collège avec la loi Habit de 1970, avec une filière de professionnalisation qui était dévalorisée, eh bien effectivement, bon, bah, en fait, en gros, ils auraient pu être tailleurs comme apprenti boucher ou
Oui,
apprenti boulanger, parce que c'était en bas de chez eux, quoi.
mais en même temps, on peut se remettre légitimement dans la position d'un jeune en 72, 73, 74, bon, 60, mais 68 était passé par là.
Oui.
Le Concorde commençait à prendre son envol.
Oui.
Qu'est-ce que c'était qu'un costume en laine? Déjà, la laine dans les années 70, 80 était dévalorisée.
Oui, tout à fait. Oui.
Il a fallu des efforts immenses des lainiers dans les années 80 pour sortir des super 110, 100,
oui,
plus doux, parce que plus personne ne voulait porter de laine dans les années 70.
Non, non.
On avait découvert le tergal,
ah oui,
la polyamide, voilà, le coton, le nylon. Qu'est-ce que c'était que vouloir faire tailleur en 74, l'inauguration de Roissy à cette époque-là? Aucun jeune, donc on peut se remettre dans cette perspective aussi. Autant vouloir être boucher, il y avait toujours un service immédiat à fournir à la population.
Oui.
Oh, tailleur, qu'est-ce que ça pouvait être d'être tailleur, de se dire en 74, je vais faire tailleur.
Je vais faire tailleur, oui, c'est ça.
Il ne faut pas, moi je ne pleure pas, j'ai appris ce métier avec plaisir. Gilson nous a formés tous les deux.
Oui, tout à fait, oui.
Et on en a
des prison de la Fédération des tailleurs.
Voilà, on a de très bons souvenirs. On a appris ce métier. Ce métier est toujours vivace, un peu dans certains ateliers de tailleurs, on vient de les évoquer. Puis dans les ateliers des opéras, la Comédie française, Garnier, Bastille, et puis dans des entreprises qui travaillent pour le cinéma ou le théâtre.
Oui, enfin, qui font ça quand même en mode dégradé, avec des fausses poches.
Ouais, pas, tu vois, la Comédie française, tu sais que c'est plus haut de gamme. Hein,
oui,
mais, oui. Mais disons qu'il y a toujours un savoir-faire qui sera quelque part.
Oui.
Mais moi, je dis toujours que le baromètre, enfin, pas le baromètre, mais le truc de la pendule.
Oui,
le pendule de la pendule, hein, voilà.
Voilà, enfin,
mais ce qui est important, c'est le marché.
Oui.
Est-ce qu'il y a une demande? Il suffit de regarder autour de nous. Hein,
oui.
Alors.
Quand j'ai monté Baisse de Sébaste, effectivement, j'avais deux types de clients. J'avais des clients qui allaient dans prêt-à-porter de luxe et des clients qui allaient dans la demi-mesure et qui avaient pour principale envie, qui d'une part avaient passé peut-être un cap au niveau de l'aisance financière et qui en avaient un petit peu marre d'être caressés dans le sens du poil par des vendeurs. Et qui recherchait plus un conseiller en image qu'autre chose. Donc,
ça va revenir, ça.
Créer un marqueur identitaire, c'est quelque chose qui est devenu important. Et finalement, en fait, fournir de la grande mesure, c'est pas fournir un bien, c'est d'abord fournir un service
de
conseiller en image.
Mais ça, le luxe va savoir le refaire, parce que le luxe, je le disais cet après-midi même, justement, que l'industrie du luxe, face à des perspectives très moroses,
oui,
va se concentrer justement sur l'exclusivité et la création d'une expérience. Et donc, de toute façon, si Berluti a été intégré par LVMH et que l'atelier se développe, c'est parce qu'il faut répondre précisément à une... Même le luxe sait qu'il faut répondre à ça.
Oui.
Mais même le luxe est confronté, dans une belle boutique de l'avenue Montaigne, est confronté à qui va nous retoucher les beaux vêtements, qui va nous les retailler, en fait. Même
c'est ça.
C'est très très dur à trouver, ça vaut très cher en plus.
C'est ce qui manque dans le luxe. J'ai souvenir d'un client qui emmenait son épouse pour s'acheter un énième tailleur Chanel, et apporter un tailleur Chanel pour aller chez Chanel et fait tomber un bouton.
C'est facile à recoudre.
Est-ce que vous pouvez recoudre? On va dire, madame, il faut une semaine.
Bah oui.
Mais parce qu'en fait, il n'y avait pas de savoir-faire à l'intérieur de la boutique.
Non, oui.
Donc, alors qu'un bouton, c'est tout bête.
C'est 1 minute 30 pour recoudre.
1 minute 30, 2 minutes. Donc,
cela dit, moi, pour revenir sur cette perspective du tailleur, qui est triste, nous faisons là, entre guillemets, la nécrologie des tailleurs, mais bon, c'est comme on pourrait faire avec d'autres, tu pourrais faire la nécrologie des palefreniers. Ils ont bien disparu dans les années 50 de Paris. Hein. C'est pas si vieux, ça va faire un siècle, mais pas 75 ans plutôt, mais à un moment donné, on n'a plus besoin de cheval. On n'a plus besoin de cheval. Et donc maintenant, on n'a plus besoin de veste. La cravate, on a tous les deux une cravate.
Oui.
Mais alors, on est deux
une
héros.
Pochette,
hein.
En plus. Une pochette.
Parce que là, la cravate, depuis le Covid.
Oui.
On peut en parler. Hein.
Oui. Ça.
Le Covid a tué la cravate, littéralement.
Le Covid a tué la cravate, alors que c'est un élément important de couleur.
Ça apporte un peu de fantaisie, un peu de joie. Daniel Bilalian me disait que... Comment il avait une expression, il disait... Il avait probablement une centaine de cravates. Mmh. Et il me disait, j'en sors une, et puis deux, et puis trois. Des essais, les essais se suivent. Je finis par en mettre une et me convaincre. Et puis je pars en me questionnant toujours si c'est la bonne.
Oui.
Il y avait quelque chose de beau là-dedans.
Oui, il y avait quelque chose de beau, oui, c'est... Comment dire ? Moi, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir proposer des cravates qui soient interopérables.
Qui sont simples, alors,
qui
peut-être.
Qui soient relativement simples.
La tienne, elle n'est pas interopérable.
La mienne n'est pas interopérable. Quand les auditeurs de Radio Courtoisie verront sur YouTube l'émission... radio diffusée, effectivement, on est tous les deux sur des motifs napolitains.
Des petits médaillons.
Des petits médaillons et tout ça.
Par hasard, d'ailleurs.
Oui,
tous les deux des médaillons.
C'est pas concerté, mais...
Motif qui tombe, c'est la plus belle cravate. Moi, j'aime bien les petits médaillons comme ça. Oui. Médaillon, disent les Américains.
Et qu'est-ce que je voulais dire ?
La cravate.
Donc, donc la cravate, effectivement, doit... C'est-à-dire que ce qui est important, le costume a trois fonctions. Il y a une fonction de seconde peau, donc on doit pouvoir l'oublier, donc on doit pouvoir être à l'aise dans la journée.
Mais ça coûte cher, un costume qui s'oublie. Hein.
C'est ça. Donc ça veut dire un costume de qualité. Mmh. C'est aussi une seconde peau, c'est quelque chose qui se porte, ou contrairement à nos compagnes, on ne va pas mettre 20 minutes dans sa penderie
pour chercher. Mais une fonction d'uniforme. Une fonction
d'uniforme. Faut qu'il y ait une possibilité de sortir le costume de ville ou assez facilement de pouvoir dépareiller les tenues.
Des blazers, des pantalons gris.
Pantalons, les gilets, les cravates et pochettes. Donc il y a cinq éléments qui sont... Les accessoires autour. Donc on va rajouter les souliers et puis les chaussettes. Et donc, on est à peu près bien.
Mais je réagis, pardon, je fais une digression, mais ça me fait réagir. Je parlais du champ sémantique aussi qui se perd.
Ouais.
On dit, les gens, quand ils achètent un costume en prêt-à-porter, s'il y a une retouche malheureuse ou minuscule, tout de suite, ça devient de la demi-mesure. Alors que la demi-mesure, non, c'est une production unitaire, c'est pas un costume de prêt-à-porter retouché. Mais il y a le champ sémantique aussi s'appauvrit. Simplement à partir du mot veste, moi je me rends compte que pour le mot veste, pour les jeunes, pour nous, une veste c'est il y a deux revers sur le devant, il y a des épaules montées, il y a des poches sur le côté et une poche de poitrine, ça c'est une veste archétypale, même si elle peut se varier. Pour un jeune, une veste c'est pas ça. Pour une veste, pour un jeune, une veste ça va être un blouson, un kawé, pour ne pas citer de marque. C'est la veste. C'est, du coup, les marques, que font-elles pour lutter contre ça? Ça se voit notamment sur les sites internet. On ne trouve pas les vestes à l'onglet veste, parce qu'à l'onglet veste, en fait, on va trouver tout. On va trouver la veste à l'onglet blazer. Ah, alors que blazer...
Tu apprends quelque chose.
Bah, j'ai remarqué ça, parce que ça vient surtout du monde anglo-saxon aussi, où jacket, pour un anglais ou un américain, jacket, maintenant, ça veut tout dire, hein. Si tu vas sur un site internet d'une marque anglo-saxonne, jacket, tu vas avoir des vestes telles qu'on y pense.
Oui.
Mais tu vas avoir des blousons, des vestes légères, des vestes structurées, des surchemises, tu vas tout avoir en fait.
D'accord.
Et le champ sémantique du tailleur, cette belle veste qui a fait le siècle en fait, la veste courte qu'on connaît aujourd'hui, qui est née en 1890 à peu près, et qui va mourir à peu près maintenant, elle aura fait un siècle et demi.
Oui.
C'est le pourpoint de la grande époque.
Ou la bielle à la française.
Voilà, c'est la bielle à la française, mais qui n'est pas français pour le coup, la veste courte. Mais elle aura fait 120 ans, 150 ans, mais on vit des prémices où son expression lexicale se perd. Voilà, du coup, les gens... Toi, tu portes une veste de tweed aujourd'hui. Donc,
tout à fait.
Moi, je dirais c'est une veste sport.
C'est une veste sport.
Voilà, mais... Pour un jeune qui comprend rien à ça, ça sera probablement un blazer.
Oui.
Un blazer. Ah, tu portes un blazer un peu campagne.
Ah oui, voilà. D'accord.
Et donc, pour nous, le blazer, surtout sur Radio Courtoisie, un blazer, c'est bleu avec des boutons dorés.
C'est ça.
Point. Ah, il met des boutons argentés si on veut aussi. Mais...
boutons argentés, croisés ou droits.
Voilà, mais... des armoiries dessus si on en a, ou si on n'en a pas, ça, on s'en invente.
Si on a un club.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans les années 90, le blazer, il a pu être un peu bordeaux, un peu vert.
Oui.
Avait du charme.
Ça avait,
C'est totalement ringard, il faut bien le dire. Le blazer de couleur, c'est totalement ringard maintenant.
Le vert. Le vert.
Un beau vert foncé. Ouais,
un vert foncé.
Ça fait un peu Stewart aussi.
Oui, mais, c'est ça. Ouais. Comment dire, ça fait un peu RATP.
Ah bah oui, ah bah, si le vert est pas. Oui, tout vert, à fait.
Mais il y a. Moi, je suis assez choqué, certaines marques de prêt-à-porter qui effectivement mettent des costumes verts. Des costumes verts et des couleurs qui sont un peu fades. Qui sont légères.
Tu peux pas, le problème c'est que la demande des clients est tellement... Il n'y a plus d'unicité du marché maintenant. C'est ça aussi qu'il faut voir.
Oui.
Ça se voit d'ailleurs pour nous et ailleurs. On nous demande tout et son contraire.
Oui.
On peut demander du slim et du large, on peut demander une épaule montée, une épaule tombante, que des choses qu'il y a 50 ans, personne, aucun client n'aurait demandé.
Oui.
Maintenant, mais parce qu'il y avait une unicité du marché, maintenant cette unicité, elle a explosé. Il n'y a que des segments de marché, et donc chacun veut des choses différentes, et le costume, il ne rentre plus dans cette unicité du costume du travail. Donc le costume bleu marine, éventuellement quelques princes de Galles, des rayures... qui faisait le corpus du banquier, en fait, ou de l'homme élégant, tout simplement, pas que banquier, de l'avocat, etc., ou du comptable. Il n'existe plus ce segment. Donc, du coup, ce qui reste du costume en prêt-à-porter, telle marque va se concentrer un peu à faire que du bleu marine, parce que des looks un peu sobres, d'homme politique ou de financier... Et puis telle autre marque va être un peu plus mode, donc elle va aller travailler des palettes de couleurs. D'autres marques sur le costume, ça c'est très important, va faire du mariage. Donc ça va orienter la palette de couleurs à ce moment-là.
Oui, il y a ça. Oui, bon, je reviens sur le propos, la seconde peau. La seconde peau, il y a aussi l'expression de la personnalité. Il y a le rôle du tailleur, traditionnellement, effectivement, est d'orienter le client selon son parcours d'élégance. Parce qu'il connaît, il a l'historique complet.
Oui, puis il sent la personne, c'est une question de psychologie.
C'est ça, c'est quand on fait de la grande mesure...
on voit qui on a en face.
On voit qui on a en face. Généralement, un prince de Galles totalement fou, totalement déstructuré, en première commande, c'est rare. Parce qu'il y a déjà le changement.
Quelqu'un de fantaisiste.
Ouais, c'est ça. On y va fantaisie par fantaisie.
Normalement, oui.
Donc.
Mais ça, c'est plus. C'est la différence fondamentale entre confection, prêt-à-porter et tailleur. Le tailleur, il est là pour suivre le goût du client.
Oui.
Ou l'étayer, ou s'associer à ce goût-là.
Oui.
Mais c'est le goût du client.
Oui.
Le prêt-à-porter, c'est l'inverse.
C'est ça.
On achète le goût de la marque.
C'est ça.
Donc on choisit pas. Alors c'est rassurant aussi parce que si beaucoup d'hommes ne veulent plus aussi, ne vont plus chez le tailleur, c'est parce qu'il faut faire des choix chez le tailleur.
Oui, tout à fait.
Et ça, je demanderai à madame parce que vraiment je dois choisir.
Ah oui, alors là, parlons des dames. Non, mais
deux bleus, je ne saurais choisir.
Moi j'ai l'impression qu'on a 30 millions de sélectionneurs au football en France et on a 30 millions de stylistes. En France, que sont nos compagnes et nos épouses.
Dont les mères étaient couturières. Il faut absolument.
Oui, c'est ça. Faut toujours une
relation. Donc elle a l'œil.
Donc elle a l'œil. et partent. En fait, quand elles viennent, elles sont prescriptrices. Mais elles veulent habiller leur homme.
Ça a dû changer aussi, moi je pense, ça a dû changer aussi la profession de tailleur. Parce qu'en effet, à un moment donné, quand le tailleur habillait l'homme de seul à seul dans un répertoire convenu de gris et de bleu, à partir du moment où la dame a mis son grain de sel là-dedans,
c'est bizarre.
C'était pas la même chose du coup, c'était pas... Mais que l'homme l'ait voulu, parce qu'attention, je ne suis pas en train de dire que...
Oui, oui.
Une prise de pouvoir, je ne sais pas, on va dire, c'est couché, hein, mais je pense que ça a pu changer aussi, parce que le regard de la dame est différent. Les Italiens sont arrivés avec une révolution dans les années 80, 70 plutôt, le camailleux.
Oui.
On va faire des tenues en camailleux, on va sélectionner des couleurs entre elles, donc ça c'est un truc que les dames adorent. Ah oui, mais la chemise, ça va avec tes yeux, la cravate, elle est avec tes yeux.
Oui, ou avec la couleur de peau.
Voilà, exactement. Oui, bah ça c'est toujours un sujet, ça. Est-ce que ça va bien avec sa carnation?
Oui,
évidemment
que
ça va bien.
Oui, 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 sachant que tout ce qui est colorimétrie avait été développé par une américaine dans les années 42.
Ouais.
Donc.
Et moi, je m'amuse à répondre ça. Je dis, écoutez, je ne lis pas la presse magazine féminine, donc je ne pourrais pas vous dire ça
oui,
va bien avec sa couleur de peau.
C'est
un gris, je pense que ça ira, mais c'était une vraie philosophie. Parce que chez les Anglais, et tel que tu es habillé aujourd'hui, c'est des expressions d'un style anglais, on s'habille suivant une situation.
Oui.
On est à la campagne, on va porter un tweed à carreaux.
Oui.
Mais comme on fait partie de tel club de gentlemen, on va porter telle cravate club.
Voilà.
Peu importe que les deux n'aillent pas ensemble en réalité.
Oui.
Finalement, chez les Anglais, le pantalon gris c'est la base.
Oui.
La veste de tweed, elle peut avoir n'importe quelle couleur, mais parce qu'on est à la campagne, ça passe bien.
Tout
et puisque
fait.
Je suis un ancien grenadier de la reine, je vais mettre ma cravate.
Tout
ça ne va pas ensemble, mais les Anglais le font.
Oui.
Parce que c'est une construction d'usage. Peu à peu, avec la modernité, avec le stylisme, avec le développement du goût, et ce que les dames apportent, justement, c'est une vision qui est plus holistique, plus on essaye de, justement, le camailleux, on essaye de penser tout, comme un
oui.
tout, pas comme des éléments les uns à côté des autres.
C'est ça.
Et ça change, probablement, un tout petit peu, soit à la marche, soit beaucoup, il faudrait quantifier les... Mais ça, personne ne fera d'études sociologiques là-dessus.
Non,
ça n'intéressera
personne. La population est trop réduite.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, le regard de la dame, et surtout parce qu'aussi dans les marques de prêt-à-porter,
oui.
dans les bureaux de style, dans les bureaux d'études,
ce sont
des femmes qui décident de quels costumes elles vont mettre dans les boutiques. Hein.
Et puis les couleurs de l'année.
C'est ça. Donc ça oriente aussi... Bon, ça n'a rien à voir avec le tailleur pour le coup. Hein. Mais, mais ça oriente aussi un goût de marché vers des choses... Une évolution du marché, modernisation.
Une modernisation.
Voilà, qui a commencé dans les 70 et qui
Une actualisation...
Oui. C'était inéluctable, de toute façon.
Oui. Bon, moi, ce que je vois, c'est que j'aime à dire que j'œuvre pour l'indépendance des hommes. C'est-à-dire que lorsqu'une épouse vient, là, je discutais avec l'homme, je discute un petit peu avec la femme
pour
demander son avis, mais on voit tout de suite la différence entre l'œil de la femme aimante de son mari et de la manière dont elle voudrait l'habiller et les contraintes professionnelles auxquelles il est assujetti et les codes professionnels auxquels il est assujetti. Et il peut y avoir justement un décalage entre ces deux choses-là.
Ah bah oui, parce que madame, souvent, regardez, il y a des plis là, ici, il y a un peu d'aisance, certes.
Ah oui,
mais chérie, j'ai besoin d'aisance. Oui, mais c'est pas beau. Oui, mais...
Ou alors le slim.
Ah bah ça c'est
le slim l'étroit.
Oui.
La coupe
tout
étroite. La coupe étroite
proche du
très
corps,
à la mode, proche du corps.
Elle est finie, heureusement, on peut le dire à tout le monde,
elle est finie.
Heureusement. Il y a plus que les quarantenaires un peu attardés, les 38-40 ans un peu attardés ou 45 ans qui croient que c'est encore à la mode.
Il y a quelques quinquas aussi qui se baladent.
Alors on va dire plutôt, donc en effet, tu as raison, plutôt les 40-50 là, qui pensent que c'est moderne, le slim.
Oui, c'est
mais
ça.
Tous les jeunes, toute la génération de l'an 2000, le large est totalement là.
Ah, bah, ça fait plaisir.
Voilà. Et puis les messieurs classiques savent toujours qu'on doit pouvoir passer le pantalon avec ses chaussures. Hein.
Oui. c'est ça.
On retire pas ses pompes pour mettre son pantalon.
C'est ça. Non, c'est indicateur, oui. Non, parce que les bas de pantalon à 16 cm, je suis désolé.
Ah, bah, ça, on en a fait, oui. Alors après, c'est une question de proportion, évidemment. Il y a des messieurs qui sont sveltes, fins, qui ça va bien. Mais il ne faut pas faire une règle de oui, tout à
oui,
fait.
Oui, enfin, quand tu commences à distinguer une mollet... On voit une mollet qui se colle au pantalon.
Mais c'est vrai que les dames ont été très... Je me souviens, avant le Covid, un petit peu moins maintenant. Parce que les dames, elles sont passées au large et Avant le Covid, elles étaient déjà passées un peu au large, des pantalons plus avec des pinces, c'était revenu déjà dans la femme. Donc du coup, elles sont prescriptives pour l'homme, mais dans le bien, là. Mais avant le Covid, je me souviens que les dames, mais la cuisse, là, il y en a un peu trop, il faudrait un peu slimmer cette cuisse. Ça. La manche, vous ne trouvez pas que la manche est un peu large?
Oui. Non, mais...
Oh, mais il ne faut pas, on ne veut pas être, ce n'est pas une chronique misogyne, on ne veut pas être, c'est juste pour rigoler.
Non, on parle d'élégance masculine et on voit qu'effectivement, il y a bien sûr dans cette société où on indifférencie tout, que finalement en fait le vêtement différencie. Et écoutez, mesdames, on a le droit aussi d'avoir notre propre élégance.
Ah, absolument. Et puis mais des fois il y a des garçons, enfin ou des hommes plutôt, qui ne savent pas choisir et qui n'ont pas envie de choisir et qui sont perdus à l'idée de choisir.
Oui.
Et donc la présence. Maternelle à côté.
C'est ça.
Rassure.
C'est une présence maternelle qui rassure.
Voilà, exactement.
C'est ça.
Mais on en voit beaucoup, nous, les tailleurs, parce qu'on est confronté à ça. Oui. Moi, je fais beaucoup de mariages en plus, donc je vois des jeunes couples. On voit tout de suite. Hein. Oh là là, je ne dirai rien, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais on finit par être femme psychologue et je suis très détendu de ça, mais. Oh là là, la psychologie humaine, les tréfonds de la psychologie humaine, en bien ou en mal d'ailleurs. Hein,
oui.
Ah, on voit des telles choses, c'est quand même pas correct. Il faudrait noter et faire un almanach. Il n'y a pas ça dans les archives, t'as pas un almanach parole de tailleur.
Ce serait drôle, ça. J'ai une anecdote. Dans un Adam de 1956, justement, c'était visite dans un atelier de tailleur, chez un atelier de tailleur. Et ils interrogeaient un ouvrier tailleur, un maître tailleur. Donc, il était au contact avec les clientèles et justement parlait des dames. Et il disait qu'il y avait trois types de dames qui passaient la porte de son atelier. Donc, le premier type qu'il détestait, c'était la dame qui mettait un petit peu son nez partout, qui discutait de la longueur du centimètre, de l'aisance, de la largeur de la manche, exactement ce que tu as dit, et tout ça, et qui finalement, en fait, voulait faire le travail à la place du tailleur. Le deuxième type de cliente, aujourd'hui qui n'existe plus, parce que dans l'exemple,
c'est
ça
pas récent, hein, oui.
Eh bien, c'est la cliente qui poussait à l'achat. Monsieur,
c'est rare, hein.
Qui poussait à l'achat monsieur pour ensuite, à la sortie du tailleur, dire à son mari, écoute, maintenant tu t'es fait plaisir, on va maintenant chez fourreur.
Malin.
Et le troisième type de client qui était finalement le plus apprécié des tailleurs, c'était la cliente qui ne voyait pas.
Qui disait rien et qui était là.
Qui ne voyait pas, qui n'était pas là.
Ah bah oui, bah ça oui.
Donc,
il y avait un tailleur à Londres où c'était écrit à l'entrée de l'atelier, interdit aux femmes.
Oui, c'est ça.
Oui, bon, c'est... Mais... plein de psychologie, c'est ça qui fait le piment. C'est ça qui fait le piment de ce métier. C'est que non seulement on est dans le savoir-faire, donc comme un cuisinier derrière ses fourneaux, mais on doit être dans le savoir-être. Parce que le cuisinier, il n'est pas devant le client. Mais on doit y être, on doit vendre le bout de tissu, on doit discuter de l'aisance, de la longueur, etc. Et donc, c'est ça, en cela, que c'est un beau métier, parce que c'est savoir-faire et savoir-être.
Et
donc, il faut savoir-être avec la dame. Moi, j'aime bien discuter avec, j'aime bien... Il faut se la mettre dans la poche, la dame.
C'est stratégique.
Oui.
On continue notre discussion après Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bonsoir, vous êtes de nouveau sur le Libre Journal des Artisans. Benoît Aguelon a l'honneur et le plaisir d'accueillir Julien Scavini, artisan tailleur et propriétaire d'une boutique
Boulevard de la Tour Maubourg.
Boulevard de la Tour Maubourg, c'est ça. Je confondais avec Bourdonnais, pourquoi?
C'est pas loin.
Non, c'est pas très loin. Et
dans
vous
le
pouvez
quartier.
Retrouver sur internet, sur scavini.fr.
Oui, sur YouTube.
Sur YouTube. Tu fais toujours des chroniques dans le Figaro.
Je fais toujours des chroniques dans le Figaro Magazine, tous les vendredis.
Tous les vendredis.
À Paris, oui.
D'accord.
Mais ils ne la mettent plus en ligne, donc il faut être sur le papier ou abonné numérique pour la lire maintenant.
D'accord. Ouais. Bon,
petite chronique, 250 mots, choisis depuis 2014 maintenant, toutes les semaines. Hein, il faut trouver un sujet toutes les semaines. C'est J'adore, c'est intéressant le sujet, inépuisable de toute façon.
Oui, tu as fait aussi, tu as écrit, tu as commis un ouvrage aussi, issu de ton blog Steve Collard.
Il y a longtemps, Mode Men, et aux éditions Mode Marabout, oui, tout à fait. J'ai essayé d'en faire d'autres, mais je l'ai fait à compte d'auteur, publié à travers Amazon, qui a un service de publication à la demande. Certes, c'est américain, mais c'est très efficient et personne d'autre ne le fait.
D'accord.
Et c'est très agréable de pouvoir, en tant qu'auteur, publier un livre pas à compte d'auteur, puisque je ne paye pas la publication, mais le livre est imprimé à chaque commande.
D'accord.
Donc en flux tendu, donc c'est très agréable de pouvoir j'ai fait des recueils de mes chroniques, en fait, du Figaro comme ça, ou des chroniques du blog. Et c'est un beau moyen de partager la parole, parce que tout le monde ne va pas sur Internet. Et le format papier est plutôt agréable, en fait.
Aussi. Oui, tout à fait. Il y a un rôle de prescripteur, on parlait du tailleur, qui est rôle de prescripteur, donc costume seconde peau, c'est aussi un outil de communication, non-verbal.
Je pense que c'est une forme d'élégance qui pose tout de suite une stature. Mais bon, ça c'est la vision du tailleur.
Oui.
C'est comme quand un chef explique pourquoi pourquoi, quand vous travaillez et que vous avez 3 enfants, mais pourquoi vous ne faites pas de la cuisine tous les soirs? Donc c'est le même genre de prescription, tu vois.
Oui, oui.
Mais oui, en effet, on est là pour rassurer le client, pour le pousser un peu dans ses idées, pour lui faire plaisir. Le client, on est prescripteur auprès de lui d'un bon moment aussi, tu parlais d'expérience.
Oui.
Quand un client vient, c'est pas n'importe quoi comme acte d'achat, en fait.
Non.
In fine, c'est un achat, mais... On est là pour discuter chiffon. Alors finalement, ça fait plaisir aux hommes de discuter chiffon. Faut pas croire.
Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui, c'est quelque chose qui est tellement futile que c'en est important.
Oui, c'est bien dit comme ça, oui.
Non, mais c'est ça.
Tout le monde n'est pas sensible à ça.
Oui, c'est une posture. Moi, je vois, j'ai des clients qui habitent Paris, qui vont travailler à la Défense, qui bien souvent, en fait, s'arrêtent chez moi, prendre un café... parce que j'offre le café.
C'est l'occasion d'une bonne discussion.
Et les premières fois que les clients viennent, en fait, ils viennent à une heure de bureau. Et puis finalement, en fait, ça glisse. Donc ça glisse vers le soir à 18h, on ne va pas proposer le café.
Non.
On va proposer autre chose.
Donc, c'est un débit de boisson.
C'est presque un débit de boisson.
Non, mais il y a un peu de ça, c'est vrai.
Oui, speakeasy de la prohibition.
Le problème, c'est que les gens n'ont plus. C'est le problème du monde contemporain. Nous n'avons plus de temps, les gens n'ont plus de temps. C'est ça aussi. Aller chez le tailleur, c'était prendre du temps. C'est un luxe, le temps, absolument.
C'est luxe.
Et beaucoup de gens, même beaucoup de gens qui parlent d'art de vivre ou qui pourraient avoir de l'argent, n'ont pas ce luxe. Moi, je crois beaucoup au luxe du temps, du temps personnel. Donc, pour faire des choses intéressantes, qui élèvent l'esprit, qui permettent de se détendre, de ne pas être tout le temps dans cette aberration contemporaine du « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Et le tailleur, on est en marge, en fait. Pour ceux qui restent, on est un peu en marge. Je pense que les gens qui font chez Schifonelli ou chez Camps, qui vont faire des grandes mesures, ce sont des gens qui ne sont pas comme les autres, je pense, justement, parce qu'ils prennent le temps. Ils savent prendre le temps.
Oui, ils savent prendre le temps. Alors après, effectivement, on parle de marques qui ont une puissance de frappe, donc... qui sont capables de répondre assez rapidement à des demandes marquées par l'urgence.
C'est pas
le cas
aussi,
des artisans tailleurs qui travaillent tout seuls et qui travaillent des ouvriers payés à la pièce. Donc c'est un petit peu différent sur ce point-ci. Mais le temps devient un luxe et de faire l'effort de prendre le temps. En fait, et déjà mettre le pied dans l'univers tailleur.
Je pense, oui, tout à fait. Oui. Oui. Absolument. Prendre le temps de s'habiller, au sens large, donc c'est pas que du tailleur. Oui. Hein. Prendre le goût de s'habiller.
Oui.
Ce n'est pas que du tailleur, encore une fois, ça peut être des belles mailles, des beaux pantalons, des choses un peu apprêtées, des souliers bien cirés ou bien achetés déjà, ou bien entretenus. Il y a déjà prendre le temps du vêtement, puis ensuite prendre le temps chez le tailleur. Je crois de toute façon en latin, élégance, ça veut dire en traduction qui sait choisir. Je crois que le mot élégance, de élégance, que c'est presque le même mot en latin, je crois d'ailleurs. Ça veut dire qui sait choisir. Donc qui sait choisir ses vêtements, qui sait choisir son artisan, son habilleur. Enfin, n'est pas que le tailleur, encore une fois, ça peut être une belle boutique, des belles marques.
Oui, c'est ça. Et de travailler justement à son image. Donc, pour revenir sur la communication.
Et beaucoup s'en foutent, hein, beaucoup s'en foutent.
Mais on leur révèle, certaines personnes qui sont notamment aux commandes d'entreprises, en fait, sont soucieuses de leur image.
Oh, tu crois, quand tu vois, je m'amuse beaucoup à regarder, mais le PDG de TF1, le PDG d'Accor, le PDG de Free, le propriétaire de Free même d'ailleurs, quand on regarde ces gens-là, c'est quoi ? C'est une veste de costume bleu, mais il n'y a plus que la veste.
Oui.
C'est un jean en dessous.
Oui.
Noir éventuellement, avec des chaussures noires en cuir,
oui.
Et une chemise blanche. Une sorte d'uniforme du patron contemporain. Hein,
oui.
Il y a la veste, il y a le statut de la veste. Mm. Alors c'est vraiment une veste à Fadi, hein, c'est une veste de costume qui a perdu son pantalon. Donc c'est un blazer sans bouton doré.
C'est ça. en fait, il a acheté un truc prêt à porter, et puis le pantalon s'est usé.
Et des jeans.
Il y a ça. Le pantalon s'est usé, et puis finalement, il utilise ses anciennes vestes de costume comme blazer.
Oui, mais même pas le jean. Mais c'est tout à fait typique aussi des gens de la télévision, qui sont de toute façon assis, dont on ne voit que le haut, hein, exactement. Voilà. Moi, si je me mets debout, j'ai un pantalon gris en laine, là. Hein.
Oui.
Je suis pas... Pour avoir un jogging dessous, mais ça n'est pas le cas.
Tu peux être en caleçon.
Heureusement non. Mais il y a un peu de ça aussi, même parce que j'ai toujours tendance à penser que l'exemple vient du haut.
Oui.
L'exemple doit ruisseler du haut pour qu'en bas on puisse s'accrocher à quelque chose d'élégant, ou à l'élégance. Oui. Mais du haut ne vient pas forcément ce signe. J'ai un très bon client et ami qui fait partie du COMEX d'une très grande société française, plutôt dans les multimédias ou dans la modernité. Et au COMEX, je lui dis, on est jeunes. Alors je lui dis, lui, il aime bien les vestes parce qu'il a un certain âge, pas loin de la retraite. Et je lui dis, mais c'est bien, mais bon, vous y allez en veste et tout. Il me dit, oui, moi j'y vais en veste, j'aime bien les vestes, j'ai toujours ma veste. Pas de cravate, hein, mais veste. Alors je lui dis... c'est bien. Une veste marron, parce qu'il portait une veste marron ce jour-là à déjeuner. Je dis, une veste marron, c'est peut-être pas l'idéal, mais au moins, c'est une veste. Et il me regarde, il me dit, mais les autres sont pas du tout en veste. Ils sont en pull avec un col zippé. Hein. Ils viennent au COMEX de ce grand groupe, ils viennent même pas avec des vestes. Hein.
Mmh.
Donc, donc c'est vous avec une veste en tweed marron qui en fait, qui êtes le plus élégant.
C'est ça.
Donc,
oui.
Je dis d'accord.
Mais alors, ça marque pouvoir. Ça marque pouvoir. Ça. Alors troisième fonction du costume, selon moi aussi, c'est un outil de reconnaissance entre initiés.
Oui.
C'est
un ami qui croit beaucoup à ça.
Oui.
Qui dit que quand t'es dans une boîte, tu portes une cravate ou un costume, il y a un petit déjeuner d'affaires qui se fait vite fait. Oui. Ah tiens, viens, c'est possible.
Alors moi, ça m'est arrivé une fois à l'université d'été du MEDEF, ou dans un atelier, où avec une personne, on s'est salué. On s'est salué, et puis après on est venu se voir parce qu'on se posait la question tous les deux pourquoi on s'était salué. Ouais. D'où on se connaissait. On ne se connaissait pas du tout, mais on portait tous les deux, on était les deux seuls à porter une pochette.
Ah oui, tout à fait. Alors tout à fait. Ça, c'est le signe d'une élégance volontaire, la pochette. Moi,
c'est
je
ça.
Pense. Ah oui.
C'est un parti pris qui est. Voilà.
Et qui est distinctif.
Qui aussi est. Et là, je me bats aussi avec mes clients lorsqu'ils ne veulent pas porter de cravate. Eh bien, je leur offre une pochette.
Mais en contrepartie, oui, un petit quelque chose, oui.
C'est ça. Mais pour donner une couleur. Et j'ai, dans outils de communication non verbale, il y a un client qui, lui, a des costumes tout à fait classiques et la couleur de pochette varie en fonction de son humeur. ça tombe très bien parce qu'en fait, il est directeur de la conformité d'un fonds d'investissement.
D'accord.
Donc c'est un petit peu le gendarme de des traders, enfin des comment dire des courtiers en bourse. Oui. C'est gendarme des courtiers en bourse. Et donc il m'a acheté toute une panoplie de
pochettes de couleurs,
De pochettes blanches. Au roulé de couleurs différentes.
Ah oui, oui, d'accord.
Correspondant à...
rouge, vert...
Voilà, c'est ça, rouge, vert, orange, bleu, correspondant effectivement un petit peu à son humeur de moment.
Un petit plaisir aussi de dire.
C'est un petit plaisir, oui, parce qu'en fait, on recherche... il recherche quelque chose, comment dire, une marque, une marque de fabrique.
Après, c'est... Ça lui plaît à lui. Moi, je ne fais jamais, j'essaye jamais d'être. Ça ne doit pas être un snobisme pour écraser d'autres gens. J'ai toujours tendance à penser. Pas parce qu'on recherche l'élégance que ça doit être pour faire remarquer à ceux qui n'en ont pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Après, il y a une différence fondamentale entre être élégant et ne pas être élégant, mais. Faire attention à être propre et bien habillé, et ne pas faire attention à être... voilà. Parce que dans la modernité, il y a quand même tout un gradient. Le fait est... on parlait de ça, c'est un peu bizarre, mais moi, j'adore regarder les obsèques des personnalités.
Ah oui.
Tu sais, sur Paris Match ou sur Internet, je regarde les photos.
Oh ! Quelle horreur.
Les gens, comment ils iraient à Castorama ou faire un barbecue, ils seraient habillés pareil, en fait. Hein,
oui,
maintenant.
C'est ça.
Il n'y a même pas, pour beaucoup de dissociations, on parlait de l'élégance du moment tout à l'heure, on s'habille suivant tel moment d'importance, et bien là, c'est tout à fait... Oh, moi, je suis sidéré de les enterrements de grands musiciens, de grands acteurs, et puis de voir des gens arriver, mais... Foutraque.
Oui, c'est ça. Ouais.
Pourtant, en plus, donc c'est pas un problème d'argent.
Non.
Parce que ce sont des gens dont on, quand on voit les noms des gens, et puis qu'on les reconnaît, c'est des gens qui croulent sous l'argent.
Oui.
Donc, avoir un costume noir dans le fond de la penderie, c'est pas un problème pour eux.
Oui.
Mais nous, ils vont arriver avec une parka élimée pourrie.
Oui.
Plus courte que la veste qu'ils portent dessous, qui elle-même est pourrie.
Oui.
Sans cravate, même pire, pas en noir.
Ou alors pire, la veste sur la parka.
Moi, ça...
J'en ai parlé la précédente émission. Je dis et je le répète, la veste, parka sous la veste, c'est impossible.
Ça marche pas.
C'est trois erreurs. Ça montre trois trucs. C'est que, premièrement, vous n'avez pas les moyens de vous acheter un manteau.
Oui.
Deuxièmement, c'est que la veste n'est pas faite sur mesure parce que vous êtes capable de mettre une épaisseur de plus
dessous,
même si c'est un truc léger acheté dans une marque japonaise à 5 euros, qui veut dire l'eau unique. Voilà. Et puis, troisième échec, c'est la constatation que votre veste est suffisamment pourrie pour pouvoir la sacrifier à la pluie et au climat. Au climat qui n'est
ça me fait rebondir ça sur un autre sujet, voilà. C'est que je me souviens quand il y a eu les commémorations de la Première Guerre mondiale, le centenaire de la Première Guerre mondiale, donc 1918, donc ça c'était en 2018. Trump était à l'Arc de Triomphe et puis le roi du Maroc, enfin il y a une flopée de gens du monde entier. Mais ça vaut de toute façon pour toutes les personnalités françaises en politique. Il fait froid, il y a du vent.
Oui.
Il pleut. Bon, il y a encore un manteau. Oui. Je ne sais plus qui était le Premier ministre, mais Macron était le président. Il y avait encore un manteau, un peu court, un peu chiche. Bon, bref, on peut pas... Ouais. Mais Trump était là avec des gants. Sa caille, il fait moins 12, il y a du vent. Il avait des gants.
Ouais.
C'est quand même le béaba de mettre des gants. Mais alors, ça n'existe plus du tout.
Mais
terminé ici. Les gants, ça coûte trop cher.
C'est ça. Ouais, ouais.
Je me souviens, j'avais fait sur mon blog... j'avais passé en revue les obsèques d'une, je ne sais plus quelle personnalité politique, c'est assez récent, et beaucoup de gens de droite se présentent. Ah bah, la femme d'Edouard Balladur, je pense.
Ah oui.
Madame Balladur, les obsèques de Madame Balladur. Il y avait donc Pécresse, Larcher, enfin, tout le monde était là, tous les repages. Il y avait Éric Zemmour qui arrive avec une paire de gants Décathlon marron, trop grande.
Pour vraiment pour partir faire du camping, tu vois, oui, ou ça, du trekking en Alaska. Il n'avait pas une plus jolie paire de gants dans la penderie que ça.
Ben oui, mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de... Oui, il n'y a, a plus de gantiers déjà.
Oh, ça se trouve n'importe où sur Internet, ça, on trouve ça, des gants. Oui, hein. Oui, paire de gants en cuir noir, c'est pas le bout du monde dans une fonderie.
Non, non, non. Puis il y a un savoir-faire à Millau, du côté de Millau d'ailleurs, ça, au niveau des gants.
Oui, absolument.
Il est très, très, très beau gants.
Les Italiens font ça très bien, des petits gants. En chevreau, tout peut pas doubler. Enfin, on peut trouver des merveilles. Hein,
c'est oui, c'est ça. Ouais.
Mais c'est comme la pochette.
Cachemire, comme double cachemire.
Ah, ou du cerf. Tu peux même avoir une paire de gants en cerf, en peau de cerf.
Et doublé rouge.
Oui, oh, bah, ça, c'est encore plus beau, oui. Doublé de soie, hein, tu peux trouver. J'en avais une fois du lapin, mais retourné. La fourrure était à l'intérieur.
Oh, quand tu ah oui, les gants, ça, c'est superbe, ça.
C'était incroyable.
c'est pour les climats qui sont...
plus froids, là-bas.
Beaucoup plus froids. Froid.
Non, mais en tout cas, cet amusement, moi, du gant, je surveille toujours, les politiques en photo ou les hommes de moyens. J'ai dit, mais il fait froid, vous êtes dehors, une paire de gants, c'est pas possible.
Oui, ou un chapeau.
Oui, ah bon, le chapeau. Ben, ça, c'est un vrai sujet, tu pourras inviter un chapelier. Mais alors là, il en a encore moins que de tailleur.
J'ai déjà invité une, Pauline Brosset.
Ah, Pauline Brosset, charmante.
On salue à travers cette émission. Oui, non, mais oui, c'est ça, c'est le chapeau, le gant... Mm-hmm. Le parapluie.
Mm-hmm. Un beau parapluie. C'est un pas si facile à trouver un beau parapluie roulé. À Cherbourg, on en fait
Cherbourg,
ça, c'est joli.
Le parapluie de Cherbourg, oui, tout à fait.
Oh, les Italiens font ça aussi très bien, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Les Anglais aussi. Oui,
ça se trouve. Mais, c'est... Oui, mais c'est beau, c'est des petits accessoires. Alors, par contre, le parapluie, on l'oublie dans le train, et puis le chapeau, on l'oublie dans le taxi, et puis
oui, c'est ça, ça, oui.
Et puis les gants, on ne sait pas où on les a mis.
Oui, non, mais c'est ça, oui. Oui, oui, ça m'a déjà chagriné. Ça me chagrine beaucoup. Moi, j'ai un client qui avait perdu sa veste.
Ah, ça, c'est emmerdant, par contre, oui, ça.
Ça et moi, ça m'a presque mis en colère contre le client.
Ah bah, si c'était une veste fait main, oui, c'est...
C'est ça, c'est...
Ça, c'est rageant.
Et c'est le lien qu'il y a entre le fait main, lorsqu'on le réalise, et la personne, parce qu'en fait, il y a une charge émotionnelle dans le costume.
Ah oui, puis c'est un tel sacerdoce de faire une veste à la main que quand... Enfin, même moi, si je fais pas ça au quotidien, j'ai appris à le faire... Oui. Quand on arrive au bout de la veste, on est ravi qu'elle sorte de la livrée. Hein. Mais c'est pour l'avoir portée. Hein.
Oui.
Mais c'est un tel travail.
Oui, il y a un phénomène de rejet, de libération et de rejet.
Ah oui, quand on arrive à la fin d'une veste, dans les derniers 20% de fabrication d'une veste, on veut la voir.
Oui, c'est ça.
Qu'elle sorte, virez-moi cette veste. Ah, ça, c'est très vrai. Mais je pense qu'un peintre, c'est pareil. Hein. Les derniers bouts sur une toile, ou un scénariste, les derniers bouts sur un scénario, ça doit être pareil. Hein.
Ouais.
Tous les travaux de labeur, comme ça, long, où on vient, on revient. Ouais.
Où on se projette, et finalement, on se projette sur le produit fini, et finalement, on commence à voir le produit fini, et puis là, faut finir les derniers points. Les rabats à l'intérieur.
C'était un travail le tailleur manuel était un travail de longue haleine, c'est un travail de difficulté, particulièrement d'ailleurs si on le fait tout seul. Les petits tailleurs qui travaillent tout seuls, qui font tout seuls, c'est particulièrement laborieux et fastidieux. C'est un petit peu différent pour un tailleur de grand atelier qui a un coupeur, qui ensuite va dispatcher le travail à la pièceur pour la veste, au culottier pour le pantalon, à la boutonniériste, au monteur de manches. Les grands ateliers sont structurés comme ça. Donc, du coup, le labeur, il est divisé entre tout un tas de personnes qui vont intervenir sur l'objet. Mais quand vous êtes tout seul à tirer votre aiguille du début à la fin sur une veste, sur un pantalon, sur un gilet, sur un manteau encore plus lourd.
Oui.
Ah là là, c'est vraiment, faut vraiment se mettre à... C'est très introspectif comme métier. Hein.
C'est ça. Et on a envie de finir.
Oui, je pense. Ouais. Et donc, la veste, il faut qu'elle soit bien portée, mais pas perdue. Non,
Et pas perdue, parce que ça, c'est...
Ça, c'est diabolique, oui.
C'est diabolique.
Ou quand le client change, ça, c'est le pire aussi. Quand le client, il change. Ah, j'ai perdu 15 kilos.
Ah, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez me retailler? Non.
Ah, ça, c'est un travail de...
15 kilos, non. Messieurs qui nous écoutaient, 15 kilos, non.
Je me rends compte qu'au 19e siècle, ils étaient capables de retourner un vêtement.
Oui.
Retourner le vêtement pour montrer, là. Ils démontaient tout pour prendre le bout du tissu à l'envers.
Oui. Il suffit de démonter la doublure du dos.
Ah oh oui, mais il y a beaucoup de tellement de travail, démonter les passepoils pour les recoudre à l'envers.
Ah oui, 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 pour les recoudre à l'envers. Oui,
tout retourner, t'imagines, on faisait ça, tout retourner. Mais bon, oui. Le tissu était précieux. Certes, on en produisait beaucoup, mais il était quand même précieux.
Et il était lourd.
Ah oui.
Et il
oui.
était lourd, parce qu'on prend supporter un super 150, d'être... un super 160. Comment dire, lorsqu'on fait les passepoils, les capucins, c'est-à-dire les bouts. Les bouts
des passepoils, tout simplement, des poches, des entrées de poche.
Des entrées de poche, effectivement, c'est...
Alors, il y a ça aussi qui change le métier.
C'est un élément qui est...
Les draps ne sont plus comme avant.
Oui.
Le métier de tailleur manuel, la main, elle était faite pour travailler un certain type de drap de laine. La laine, oui. plus que le coton et lin, de toute manière, la laine. Mais des laines lourdes des années 50, 60, 70, elles se travaillaient très aisément à la main.
Oui.
Le métier était plus facile... Les essayages tombaient mieux, les vestes avaient plus belle allure, plus facilement.
Oui.
Le problème de nos jours, les tissus étant, ayant atteint des tels degrés de finesse,
oui.
demandés par le client, parce qu'il a envie de porter des choses légères, souples,
oui.
que c'est, pour travailler le même tissu à la main, ça n'est plus le même métier. Enfin, c'est le même métier, mais c'est plus le même savoir-faire.
Oui.
Il faut un savoir-faire de tellement haut de gamme. Tellement fin, il faut avoir des mains de fée en fait.
Oui, et faire du premier coup, réussir du premier coup.
C'est
un petit peu
tombe.
Comme le piquage du coton. Parce que lorsqu'on pique à la machine le coton, bah, ça marque.
Des trous, oui.
Ça marque. Donc lorsqu'on pique un tissu très très fin.
On n'a pas le droit à l'erreur. Ça a changé le métier fondamentalement. Et les derniers ateliers qui sont capables de maîtriser ça à la main sont les très très grands tailleurs.
Oui.
Qui ont des très gros ateliers structurés avec des ouvriers qui ont de la bouteille, des plus jeunes qui rentrent en permanence, mais
oui.
des vrais ateliers où il y a du temps et des doigts de fée. Parce qu'un petit tailleur des années 50, on lui donnerait un tissu d'aujourd'hui,
oui.
il en abandonnerait son métier tout de suite, parce que c'est impossible à travailler en réalité.
Oui.
Hein.
Oui, oui.
Donc c'est ça aussi, il y a à la fois une raréfaction de la demande, une raréfaction démographique
du
personnel, et puis il y a une évolution aussi technique du drap qui fait que le travail à la main n'est plus le meilleur pour travailler ces tissus, en fait. Sauf à y mettre un délire de précision. Voilà.
Oui.
Et donc main d'œuvre encore plus chère, hein, du coup.
Oui, c'est ça. C'est à la fin...
qui explique le prix de ces costumes. Je me souviens de, un peu tristement quand même, du débat Fillon, enfin de M. Fillon et ses costumes.
Oui.
Quel faux procès. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Bon, qu'on les lui ait offert, c'est un autre sujet, mais,
oui.
Mais ça vaut ce que ça vaut. Un costume Arnis, c'est ça. Hein.
C'est le prix de la qualité. Un tailleur de province, un costume...
Intérieur de région.
De région, province. Je préfère dire province.
Non, mais moi aussi, je préfère province. Je viens de Bayonne, donc moi, j'ai aucun problème avec ça.
C'est ça. Comment dire, on prend 4 000 euros. Ça fait 40 euros de l'heure. Ça fait moins cher qu'un plombier.
Et je connais un bon ami, Jérémy, qui est installé à Grenoble, mais qui va déménager à Chambéry, là.
Oui.
Jérémy, qui s'est présenté au meilleur ouvrier de France, mais qui, hélas, n'a pas été retenu. Et,
pas assez confection, c'est ça
je ne sais pas ce qu'il lui reproche, parce que ce n'était pas justifié dans la lettre, mais il n'y avait pas de justification. Mais lui, il fait une grande mesure. Il a fait un manteau magnifique. Type polo coat, donc c'est-à-dire le manteau de Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby. 1000 euros, lui, il fait. Hein,
oui, je sais, oui.
Voilà, un prix défiant toute concurrence pour du fait main, hein, là, il faut le dire.
Oui.
Allez à Grenoble, bientôt à Chambéry. Voilà.
Oui, tout à fait, oui.
Il est retoucheur, hein, il vit que de ça. Tailleur militaire pendant une quinzaine d'années.
Oui,
et puis,
absolument.
Puis retoucheur au quotidien, mais il fait aussi de la grande mesure. Oui. Ah, bah tu vois, bah, parfait.
Oui, oui, non, mais.
Le monde est petit.
On n'est plus très nombreux, donc on finit par tous se connaître. Et donc voilà. Donc,
mais je le redis, à titre personnel, tous les jours.
Mais c'est.
Qu'on ne se méprise pas, à titre personnel, tous les jours, je ne fais pas du fait main. J'ai appris,
oui.
Je sais le maîtriser sur le papier, bien que comme je n'en fais pas assez, je perds la main, mais ce que je fais au quotidien, c'est quelque chose qui est plus économique, plus viable, qui est de la confection industrielle. Alors ça s'appelle du sur-mesure industriel, ou de la demi-mesure, ou de la petite mesure, enfin on peut dire tous les termes. Globalement, les gens comprennent sur-mesure à peu près,
oui.
Même si c'est pas du sur-mesure au sens où on va prendre... En grande mesure, quand on fait tout main... une petite omoplate de 5 mm, ça va se voir. Oui. Un petit éton un peu plus vers l'avant sur la poitrine gauche, ça va, on peut le traiter.
Oui.
Une jambe, des jambes un peu arquées, on peut le traiter. Des choses très détaillées comme ça, très fines.
Oui.
Des problèmes entre droite et gauche d'épaule, d'aplomb, des manches, ça, on pourra le traiter en grande mesure. Ce n'est pas le cas en mesure industrielle. Mais on arrive quand même à des résultats qui sont quand même très, très,
oui,
très honorables.
Tu réussis...
À 95%, le costume, il est magnifique.
Reconnaissance entre initiés, il y a aussi un parcours d'élégance. Et finalement, en fait, moi, je l'ai vu, c'est que finalement, on arrive à discuter de la longueur d'un pantalon à moins de 1% de longueur. Un pantalon de 105, on va discuter sur 0,5 cm.
Oh là, oui, et encore, mais ça se voit pas beaucoup. Hein.
Oui, non, ça se voit pas beaucoup, mais le fait que ça casse, la nature de la cassure, la manière dont tu vas porter le pantalon avec une ceinture ou une bretelle.
Ouais.
Privilégié à bretelle, on se bataille avec les clients pour qu'ils adoptent de nouveau la bretelle.
Oui. J'en ai pas là, moi, mais d'habitude, j'en ai tous les jours maintenant.
Ouais,
c'est la seule manière qu'un pantalon soit net.
Oui,
une paire de bretelles, oui. C'est plus beau. Alors moi, je le dis à tous les mariés qui viennent me voir. Je les oblige. Je leur dis, bon, bah, vous allez mettre une paire de bretelles, de toute façon.
Oui.
Vous allez être pris en photo sous toutes les coutures. Si vous voulez pas vous plaindre des plis sur le pantalon, vous mettez des bretelles. Je veux rien savoir.
Ouais.
C'est comme ça et pas autrement. Surtout qu'avec un gilet, on peut quand même mettre une paire de bretelles dessous. Alors ça, la question des jeunes, c'est, oh, mais les bretelles, on les met par-dessus le gilet ? Non.
Ah, y a eu ça.
Ah bah moi j'ai tous les jours ça. Les bretelles, on les met quoi, par-dessus le gilet? Et est-ce que le col de chemise, on le met par-dessus la veste? Ça aussi j'ai, hein.
Ah oui.
Ah, j'ai, non,
ah oui, oui. Ou sinon, ça se faisait dans les années 70, les cols pas à la tarte.
Ah oui, on connaissait quelqu'un qui faisait ça.
Voilà.
Non, mais c'est des questions. Tu sais, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs n'ont pas toujours cette culture-là. Mais la paire de bretelles, oui, c'est quand même très, très pratique.
Ouais, il faut introduire la paire de bretelles et la pochette.
Oui, oui, oui.
La pochette, c'est la paire de bretelles.
Mais tout ça, c'est pas évident pour les gens, hein, parce que
mais
c'est
oui,
des marques. À Paris, c'est encore.
Explique.
À Paris, un peu plus.
Oui.
Mais en province, tu sais, c'est très difficile de s'habiller comme ça. Hein.
Non, oui.
Paris,
il y a
Lyon.
Il y a la mode du cool. Il y a le cadre de la défense.
Qu'il n'a pas besoin de s'habiller.
Qui bouffe des graines, qui prend sa trottinette électrique.
Oh bah il n'est pas à la défense alors, lui.
Son costume terne.
Oh, pas de costume du tout. Il a plutôt des baskets
et
un chino.
Son
hein.
costume terne, bah non, quand il est habillé avec des baskets. C'est presque. Et bien souvent, c'est des cadras qu'un cas.
Mais je pense que.
Il a peur de la mort ou il a peur de vieillir. Il veut s'habiller comme son stagiaire.
C'est bien le problème, moi, de beaucoup de jeunes qui me le disent à la boutique ou dans des commentaires sur le blog. Les jeunes me le disent. Ah, mais moi, j'aime beaucoup les cravates ou les pochettes. Mais alors, je ne peux pas en mettre au travail parce que mon chef, ça ne passe pas du tout. Il n'est pas du tout habillé comme ça. Et donc, il y a un vrai sujet de... C'est le moins-disant social. C'est pas le mieux-disant, hein, c'est le moins-disant. Donc, c'est un nivellement par le bas.
Il faut avoir une force de caractère pour...
Mais quand t'es jeune, en stage ou en premier emploi,
c'est pas évident.
Pas non plus te faire remarquer avec une belle cravate dans les bureaux.
Ouais.
Alors, j'ai un très bon client qui travaille dans la sphère publique, toujours sapé, très 1940, des très belles cravates, des bretelles. Il est élu chez les écologistes, par ailleurs, ce qui n'empêche pas du tout...
Bah, c'est bien, il porte des produits naturels
absolument.
De punk à chien,
il m'amuse avec ses costumes en flanelle avec des revers énormes, très années 40, toujours des bretelles,
écologiste.
Il a des chapeaux, il connaît Pauline Brosset d'ailleurs, il y va faire ses chapeaux, donc ça n'est pas forcément, il n'y a pas forcément de rapport avec la ligne politique, mais il me dit, ah mais vous savez Julien, toutes les femmes de mon étage, que ce soit les drôles de bureau ou les secrétaires, etc., tout le monde adore comment je m'habille, dès que j'ai un nouveau costume, elles veulent le voir, les femmes aiment bien ça, hein, les hommes bien habillés.
Oui.
Et beaucoup d'hommes qui ne croient pas assez en ça, je pense.
C'est ça. Alors moi, j'ai un client qui vient, qui travaille dans l'armement, qui vient d'une entreprise qui est génétiquement un peu marquée à gauche.
Mmh.
Donc le PDG et tout le COMEX est habillé
simplement.
Comme Steve Jobs, avec des baskets.
Si c'est bien fait.
basket veste et puis chemise, mais pas de cravate. Mmh. Et bien lui, il s'habille sur mesure.
Ouais.
Avec,
et alors, ça passe.
Et il se fait surnommer Monsieur le Directeur.
C'est
y
drôle.
Y compris par les membres du
Comex. Oui, bah, tout à fait.
Directeur de programme, donc voilà, c'est Monsieur le Directeur. Mais il y a le côté un petit peu marrant. Mais parce que lui vient d'une entreprise qui est d'armement, qui avait été absorbée, qui, elle, avait une tradition plutôt de traditionnelle,
oui,
donc de droite.
Oui.
Donc,
c'est un article que je dois écrire pour le Figaro, que j'écrirai donc... j'écrirai jeudi, mais j'y ai déjà pensé. C'est quelque chose qui est ressorti, moi, par mes clients à la boutique. Finalement, dans les milieux de la défense, on s'habille plus en costume.
Non.
Ça peut être mal vu, nanana, même chez les avocats, dans la banque, j'en parle même pas, à part chez Lazare, peut-être, un petit peu. Mais là où, du coup, il y a des vrais costumes, avec beaucoup d'allure,
oui,
revendiqués, et ben chez les informaticiens. Dans les bureaux d'informaticiens, ils sont là à faire des lignes de code. C'est que des geeks.
Oui.
Donc, que des comment on pourrait traduire geeks, que des fanades informatiques.
Oui, c'est ça.
Tous plus fondus les uns que les autres, manga, etc. Tous plus drôles les uns que les autres.
Oui.
Et là-dedans, ils peuvent être 2, 3, 4 mecs dans un bureau avec des costumes cravates sapés à 4 épingles. Et ça passe très très bien dans ce secteur-là. C'est étonnant, hein, comme quoi.
C'est marrant. Moi, j'ai cas d'un ami et client qui, lui, travaille dans la pub. Et porte uniquement des trois pièces, mais dans la philosophie de l'armure.
Oui.
Dans la philosophie d'armure, c'est qu'il met à 7h et à 23h, il pose son armure.
Mmh. Oui,
donc,
puis ça.
Et il se retrouve avec des pubards façon 99 francs.
Oui. Des cinquantenaires.
Voilà,
des cinquantenaires. Avec un jean slim et les Converse.
Slim, oui. Les Converse.
Des ados attardés, peut-être.
Des ados attardés, ouais, c'est ça. Avec des t-shirts Pokémon ou je sais pas quoi. Et, mais lui apparaît comme le président, le patron. Et d'ailleurs, il m'avait présenté un autre client qui était devenu un ami aussi. Donc, il m'avait posé tous les deux la question, mais on choisit, on a à peu près tous les trois le même goût, et on choisit plus ou moins tous les trois les mêmes tissus, à peu près au même moment. Je lui dis, bah, pardon, j'en fais pas exprès, mais bon, j'ai des coups de cœur, donc j'ai partagé avec vous et tout ça. Et ils m'ont demandé, mais nos équipes, elles vont pas voir qu'on s'habille chez toi. Et alors, ils sont enseignés, enfin, discrètement, par biais de proxy, et en fait, portant le même jour, le même tissu, eh bien, les équipes ne voient pas, parce que la manière de porter était différente.
Ah, oui.
C'est-à-dire qu'il y avait l'un qui portait le costume comme une armure, et l'autre qui portait le costume avec... des épaules naturelles, des tissus non doublés, et quand il rentrait en réunion, lui, il enlevait sa veste, il la mettait en boule et il la lançait à son assistante.
Mmh.
Et il y a la manière de porter costume aussi,
oui, complètement,
qui fait qu'on peut avoir...
une posture rigide ou une posture,
voilà,
décontractée avec, oui.
Et la posture est aussi importante à ce niveau-là, donc ça c'est... Le conseil pour nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Donc, ne pas hésiter à faire... les Italiens ont fait ça très bien. Si je vais me faire démonter à dire ça, hein, parce que je vais me faire hurler dessus et jeter des briques, mais un costume... Les Italiens font ça très bien. Un costume bien choisi, bien coupé, de grande allure, avec une paire de baskets bien choisies. Je ne suis pas en train de parler d'une paire de running, du balance, hein, mais...
Je vais limiter la gueule.
non, mais si la basket, elle est d'une couleur, enfin, ou une sneakers d'une couleur noire, tu vois, ou de monochrome,
ouais,
tu peux obtenir quelque chose de très contemporain qui a beaucoup d'allure. Et qu'en France, on n'ose pas faire... Les Italiens le font très bien. Armani,
oui,
le fait très bien, typiquement, enfin, la marque Armani, ou Cucinelli. Mais qu'en France, on n'ose pas faire parce que soit on veut rester arc-bouté sur à l'ancienne costume avec les Richelieu, tu vois,
oui,
à lacets,
ou alors
on envoie bazarder tout ça pour faire un extrême inverse, tu vois, donc on abandonne tout, tu vois, sur pied, tout meurt sur pied pour faire autre chose. Là, c'est moi, je parle de ça parce que c'est la manière de faire une sorte d'entre-deux. On garde un en même temps, même si...
C'est... Ah bah, c'est, on va finir sur un désaccord. On va finir sur un désaccord parce que là, il faut une question de cohérence, une question de...
Non, parce que ça peut être très... Moi, je pense que c'est... Les pilotes de ligne font ça très bien, typiquement, parce qu'ils sont en costume de pilote de ligne, oui. Mais ils ont besoin d'une chaussure confortable parce qu'ils doivent marcher autour de l'avion, nanana, ils ont beaucoup de choses à faire. Et ils peuvent arriver à faire ça, bon, pas toujours très bien, parce que le problème fondamental, là, c'est choisir la chaussure.
Ben
il faut
oui.
qu'elle soit de bonne qualité, de bon ton. Tout est là. En
fait. Oui, mais le problème, c'est que c'est très difficile. Tu ne peux pas faire de chaussures artisanales, de baskets artisanales.
Ah oui, mais... Regarde, j'avais un ami il y a 2-3 jours qui dînait chez moi, d'un certain âge, qui vit en Suisse maintenant. Et il voit toute ma collection de chaussures Alden en cuir.
Oui.
Et il me dit, ah, t'en as beaucoup. Alors, je lui dis, bah oui, c'est une montre normale. Ah, oh, moi, je ne peux plus mettre ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui a des gros moyens, qui vit très bien, mais... Il a mal aux pieds, donc il ne peut plus. Donc, donc il porte des espèces de petites chaussures Larry Piano, pour ne pas dire la marque, avec une petite semelle blanche, des chaussures toutes molles.
Ouais.
Mais il y a moyen, quand même, moi je pense qu'il y a moyen de trouver, sans abandonner tout le costume sur pied mort comme ça, pour passer à autre chose de complètement radical,
oui.
d'arriver à essayer de trouver des entre-deux, des zones de, bah, de convergence.
Ouais,
c'est toi, ça. Tu portes encore des Richelieu aujourd'hui.
C'est des Richelieu bicolores de chez Longliu, les beaux souliers, donc on va faire la pub, justement. Voilà. C'est peut-être la solution pour ton ami d'aller voir Long dans les beaux souliers, mais parce que c'est... Comment dire, on est tout à fait dans l'idée. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est bimatière. Dans les chaussures.
Ouais, donner de la couleur.
Donc à partir de ça, ou de ça, la matière,
ouais.
Du nubuck avec, avec du box. Et
ça marche très bien en basket.
C'est la norme en basket, j'ai envie de dire.
Oui, le bimatière, trimatière, oui, tout à fait.
C'est la norme en basket. Mais,
Tu vois, t'as pris des choses de la basket pour les mettre dans de la. Ça, c'est toujours fou.
Oui,
là.
Mais pour... parce que mes chaussures sont sur mesure.
Ouais,
donc
oui,
c'est un
oui.
peu comme des chaussures orthopédiques.
Oui, tout à fait. Ah oui,
donc,
très confortable. Non, mais moi, des Alden, je mets les. Mais bon, j'ai 39 ans, donc je mets les pieds dans une Alden, je suis très bien.
Oui.
Mais bon, il y a une question d'âge. Après, moi, j'aime beaucoup de plus en plus les mocassins. On va dire que le mocassin, c'est probablement la chaussure de l'avenir. Là, j'ai pas un mocassin à pompons aujourd'hui, mais j'ai juste un tassel loafer. J'ai juste un mocassin, un penny loafer aujourd'hui.
Mmh.
Oh, c'est tellement confortable, le mocassin. Tac, le pied rentre dedans.
C'est
efficace.
Pas besoin de lacets et tout ça.
Après, si c'est pas une chaussure à lacets, ça peut être. Comment ça s'appelle ces petites bottines avec de l'élastique sur le côté, une bottine Chelsea boot. Bon, bah, tu peux aussi. Tu vois, autour du costume, pour
on
parler
peut tout
chaussures.
À fait s'amuser,
oui, tu peux quand même trouver des. Encore une fois, si j'ai dit la histoire de la basket ou de la sneakers, faut vraiment. Tout le sujet, c'est comment la sélectionner.
Oui.
Pas qu'elle ait l'air d'une running, pas qu'elle ait l'air moche, pas qu'elle ait l'air bleu fluo, non. Tout se joue là.
Oui.
Tout se joue là.
Oui, oui.
Pas comme Michel Barnier à l'enterrement de Madame Balladur qui portait un costume bleu avec des running aux pieds.
Oui, c'est ça. C'est...
Là, ça n'allait pas. Surtout pour aller à un enterrement.
Pour pas payer les quêtes. Donc, moi, je suis pas d'accord. Moi, je reste pas convaincu parce que. on peut faire quelque chose de type sport avec des souliers traditionnels.
Oui, bien sûr.
Et les baskets sont toujours industrielles. Et le prix réel d'une basket sera toujours inférieur au prix réel d'un soulier artisanal.
En tout cas, supérieur au prix de revient d'un soulier artisanal,
voilà,
je comprends, tout à fait.
Donc,
oui, mais alors après, moi, je suis tailleur, donc je défends mon costume.
Oui.
Si les mecs les portent encore des costumes parce qu'ils mettent une chaussure plus confortable, tu vois, je vais prendre le parti du costume.
Mais pourquoi pas des charentaises, une jolie charentaise.
Ah, bah, c'est bien fait. Non, il y en a qui font ça très bien, des dandys font ça très bien avec des, tu sais, des souliers d'intérieur.
Oui, des slippers.
Un slipper sans velours.
Un slipper sans velours,
évidemment.
Pour porter
c'est
des costumes, pour porter pour... le...
C'est pas pour tout le monde.
Pour porter le,
non, mais bien
le
sûr.
Smoking. Donc,
oui, non, c'est pas voilà, exactement. Avec un costume de ville, porter un slipper sans velours, ça peut se faire, mais non, mais je dis ça histoire d'animer le débat sur. Je pense que le costume peut encore rester, et ça peut être le mot de la fin d'une certaine
tout
manière,
fait,
mais
oui.
Je pense que le costume peut rester un vêtement d'avenir parce que son unicité, sa simplicité, sa sobriété sera toujours de bonne aloi. Les gens pour continuer à porter des smokings parce qu'ils ont des soirées. Ça, c'est un vêtement qui d'ailleurs se renforce au smoking parce que comme il y a moins de costumes, il faut quand même avoir une tenue un peu classe de temps en temps. Donc
tout à fait.
Finalement, on vend plus de smoking qu'avant.
Et que une fois qu'on a un smoking, on a donc on trouve toutes les occasions
pour le mettre.
Pour le mettre.
Et puis ça fait une vraie différence avec le quotidien où on est mal sapé.
Tout à fait.
Donc au moins là. Donc le costume, il a une trajectoire pour les 50 prochaines années qui est raisonnablement optimiste, il y en aura toujours,
oui.
Mais pas le même costume qu'il y a 50 ans.
Mm.
Tout le sujet, c'est cravate ou pas cravate, pochette ou pas pochette, quels accessoires autour et quelles chaussures.
Tout à fait. Ouais, écoutez, c'était le mot de la fin. Donc, j'avais le plaisir et l'honneur d'accueillir Julien Scavini, donc, que vous pouvez retrouver dans sa boutique Scavini, boulevard de la Tour Maubourg, et sur scavini.fr, et retrouver dans la chronique du Figaro, magazine papier. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine. Ce sera vendredi soir à 19h30. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Dans le Libre Journal des Artisans, dirigé par Benoît Aguelon, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 25 avril 2026, de 19h30 à 21h, et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.